Premier titre de l'Arrache-Cœur 387, un ouvrage d'Alessandro Mercuri intitulé Peeping Tom et qui est disponible aux éditions Léo Schir. Alors Alessandro Mercuri, nous le découvrons, il est présenté en quatrième de couverture comme auteur, concepteur et réalisateur. Et Peeping Tom est son deuxième livre, la suite d'un premier tome qui s'intitulait Kafka Cola, sans pitié ni sucre ajouté, qui date de 2008. Alors c'est peut-être une suite, mais n'ayant pas lu le premier volume, pour moi c'est une découverte. Et Peeping Tom est constitué d'un ensemble de textes qui oscillent entre une forme de fiction, c'est-à-dire de jeu un peu d'imagination ou d'imaginaire, et puis la forme plus caractéristique de l'essai, et c'est presque philosophique, littéraire, touchant à au regard sur le monde tel qu'il peut se décliner. Donc il y a 12 textes qui constituent la trame de ce Peeping Tom. La couverture est éloquente, hein, puisqu'on y découvre un dessin licencieux, comme observé à travers un trou de serrure, et dont on a masqué par une étoile le détail le plus caractéristique. Et c'est un peu à cette infraction que nous invite Alessandro Mercuri, donc à mettre notre œil sur ce trou de serrure et à observer d'une façon un peu différente de celle dont on a l'habitude certains aspects du monde qu'il a choisi et sélectionné. Alors ça tourne, je l'ai dit, beaucoup autour de la philosophie, sans être un essai philosophique au sens strict du terme. La matière philosophique est souvent réquisitionnée, notamment au début du texte, dans une nouvelle ou un texte, on choisira, qui s'appelle Malavita Philosophica, où il convoque la figure d'Arthur Schopenhauer, qui a rédigé en 1830 un ouvrage savoureux qui s'appelle L'art d'avoir toujours raison, et qui est une charge polémique contre la dialectique de Hegel. Et immédiatement, on est plongé dans ce travail caractéristique de l'écriture d'Alessandro Mercuri à mes yeux, à savoir une très grande culture et qui est assez vaste, qui s'intéresse à des domaines très variés, parfois inattendus, qu'il arrive à convoquer et à insérer dans un dispositif plus large. Et puis en même temps, un jeu de... un peu troublant, un peu d'amusement, de défiguration des différents éléments pour les faire fonctionner dans des structures qui sont presque imaginaires à mes yeux. Enfin, il y a ce mélange de rigueur et de convocation d'éléments extérieurs, objectifs, et puis une véritable sensibilité, un regard particulier qui se manifeste dans le traitement qu'il fait de ces différents éléments. Enfin, donc on commence par cette observation de la philosophie qui, par le regard, le détour de Schopenhauer, est présentée comme une imposture, c'est-à-dire que la philosophie n'est plus cette science rigoureuse qui se prétend la seule apte à penser le monde et le réel, avec Schopenhauer qui s'oppose à Hegel et à toute sa construction philosophique, la philosophie devient un objet possible de l'imposture, du mensonge, de la dissimulation, et l'art d'avoir toujours raison, finalement, c'est l'art de savoir manipuler le langage pour lui faire dire absolument tout ce qu'on a envie, et pas nécessairement se référer à cette vérité avec un V majuscule qui serait le point d'orgue de la pensée philosophique. Non, on est dans un monde où le langage est labile, il est manipulable, il est transformable, il est soumis à de nombreuses torsions qui peuvent nous entraîner dans le monde de la fiction au sens strict du terme, et qui est tout aussi porteuse finalement d'une vérité qui n'est certes pas la vérité majuscule, mais qui, malgré tout, est capable de force d'entraînement et de persuasion. Et donc c'est sur ce support-là que nous allons démarrer ce Peeping Tom, avec la dialectique très particulière qui est proposée par Arthur Schopenhauer. Alors, moi, ce qui m'a surtout plu, justement, dans la manière dont Alessandro Mercuri avance à travers cet ensemble de réflexions, c'est que, justement, il bat en brèche cette philosophie un petit peu arrogante, qui se prétend la seule à pouvoir penser le monde. Il cite d'ailleurs dans le deuxième texte Michel Onfray, hein, qui se pose comme le philosophe et aurait, paraît-il, hurlé lorsqu'on l'a rapproché de l'apôtre Raël, hein, le raélisme. Donc là aussi, Alessandro Mercuri souligne le fait que, très étonnamment, dès que le philosophe se sent attaqué, il se réfère toujours à cette objectivité dont il serait le prétendant ou le dépositaire pour écarter d'un revers de main dédaigneux toute forme de manipulation, justement, ou de défiguration, de transformation, etc. Et Mercuri laisse entendre, ou en tout cas laisse penser, que cette posture, qui est une posture du pouvoir, véritablement, et de ce que s'arroge la philosophie, est une posture arrogante, mensongère, et destinée à presque jeter un voile qu'on ne relèvera plus sur la pureté philosophique, afin que plus jamais on essaie justement d'en cerner les contours et de faire apparaître qu'elle n'est pas aussi absolue et parfaite que certains pensent le dire. Alors moi, les textes qui m'ont vraiment marqué tournent souvent autour d'une perception du monde où l'être humain, avec toute son arrogance là aussi de dépositaire d'un savoir, d'une culture, d'un langage, serait le point d'orgue de la perfection humaine. Et Alessandro Mercuri aime bien convoquer des animaux pour montrer que le fait de penser, le fait de parler, le fait de créer ne sont peut-être pas des prérogatives exclusivement humaines. Et il y a un texte qui s'appelle Castorama, où il fait un parallèle intéressant entre le barrage géant des Trois Gorges qui est en Chine, qui était un barrage absolument pharaonique, monumental, qui a nécessité le déplacement de nombreuses populations, l'ensevelissement, l'engloutissement de villages entiers, etc. Et un autre barrage qui était découvert de manière tout à fait inopportune, par hasard, grâce à des vues satellitaires. On a découvert dans le Grand Nord canadien un barrage, alors certes pas aussi long que le magnifique barrage chinois, mais un barrage déjà d'une certaine envergure, construit par des castors, et qui continue de s'agrandir. On a observé, on a découvert ce barrage, et en remontant sur des clichés satellitaires plus anciens, on s'est rendu compte qu'il existait depuis très longtemps et qu'il grandissait au fur et à mesure de l'apport des castors. Et Alessandro Mercuri va jusqu'à dire que, bien entendu, beaucoup d'êtres humains rechigneraient à accepter l'idée que ce barrage soit une œuvre au sens strict du terme, au même titre que le barrage des Trois Gorges est une œuvre, une création de l'homme, de l'artifice. Et en fait, il dit ben non, enfin, les castors véritablement font œuvre, et c'est une œuvre naturelle, inscrite dans un espace particulier. Et pourquoi leur refuser ce statut ? Donc c'est tous ces aspects-là de la personnalité des textes qui m'a vraiment plu. Hein. On sent une certaine réticence à laisser l'être humain se gargariser de son anthropocentrisme et de son absolu. Il y a, par exemple, sur le langage, il y a tout un moment où il revient sur le fait que pour l'être humain, il est le seul dépositaire d'une langue de communication. Et on a une longue litanie des différents cris des animaux que l'on peut trouver dans certains ouvrages, où on a le cri de chaque animal avec ses caractéristiques. Rien que le verbe en soi est tout un monde, un univers qui surgit. Et justement, il dit oui, c'est vrai, tel animal ne fait que ça, tel autre ne fait que ça, etc. Seul l'humain parle, mais on sent toute la charge, évidemment, ironique, parce que toutes ces manifestations de communication sont, au même titre que celles de l'être humain, un mode de relation à l'autre. Enfin, ça, c'est vraiment le côté qui m'a, moi, le plus stimulé dans la lecture des textes. Alors après, il a aussi des approches très très intéressante de certains artistes. Il y a notamment un très beau texte qui est consacré à la peinture, et plus précisément à Piero della Francesca. Donc là aussi, où il s'avance dans l'univers de cet artiste, de ce peintre, et il crée des liens, voilà, inattendus, surprenants. Il entre dans le monde de la peinture d'une façon un peu inhabituel, changeant des coutumes et des traditions de la lecture habituelle. Notamment, il y a un très beau tableau, c'est une série de Piero della Francesca, où on assiste à la conversion de Constantin Ier, qui est le premier empereur romain qui a accepté de se tourner vers le christianisme, de se convertir, et qui aurait eu cette idée suite à un rêve au cours duquel l'ange lui serait apparu et lui aurait montré la véritable voie. Et ce tableau de Piero della Francesca, c'est une fresque, montre l'empereur endormi, et finalement tout se passe dans une sorte de ténèbres. Tout est dissimulé, en même temps montré, et on doit finalement soi-même construire un rêve si on veut pénétrer le rêve de Constantin Ier. Et là aussi, enfin, tout est, y a pas du tout de façon arbitraire, mais c'est une possibilité, un peu une rêverie autour des œuvres de Piero della Francesca que nous propose Alessandro Mercuri. Et c'est tous ces cheminements-là de traverse que j'ai vraiment apprécié. Le sentiment de partir toujours dans des chemins qui ne sont pas les autoroutes de la pensée ou de l'observation, mais justement enfin, des sentines, des petits chemins détournés, des choses un peu aventureuses qui font qu'on est toujours surpris. Alors, il y a un très beau texte aussi sur Superman qui est vraiment, vraiment intéressant. Enfin, on revient sur la genèse de ce personnage emblématique. On va croiser également un texte sur Mandrake. Donc, ceux qui ont lu le journal de Mickey se souviennent du magicien Mandrake avec sa moustache, hein, très caractéristique. Et là aussi, enfin, moi j'ai découvert plein de choses que je savais pas et que j'ai vérifiées, qui sont effectivement réelles. Et il fait des liens entre le personnage de Mandrake, le personnage de la bande dessinée, un véritable magicien Mandrake qui a existé et qui était antérieur à la création du personnage de bande dessinée, le mania de la presse William Randolph Hearst, et puis il convoque Méliès. Hein, on est dans tout un univers de la magie, de cet art de la tromperie.
Le monde de l'illusion.
Oui, voilà, tout ce monde de l'illusion qu'il convoque, et qui fait qu'on ne sait jamais tout à fait effectivement ce qui relève du réel ou de l'hypnose, hein, puisque Mandrake est au sens strict quelqu'un qui hypnotise les foules. Il y a de beaux passages justement sur ces éléments-là, et le fait que Mandrake a été adapté au cinéma en 1939, mais qu'il y avait eu dans une bande dessinée en 37, donc 2 ans avant, Mandrake qui se rendait à Hollywood et qui devait jouer devant les caméras son propre rôle, et en fait ne pouvait pas tromper la caméra, parce qu'elle était d'une objectivité telle que le caractère hypnotique ne pouvait pas fonctionner. Il ne pouvait pas faire sur elle ce qu'il était capable de faire sur les consciences humaines et sur les foules venues l'observer. Cet objet-là tuait en soi l'illusion. Et donc, sur la machine à rêve que constitue Hollywood, dire « Non, non, cet objet-là, justement, est un obstacle même » au caractère illusionniste et à la capacité de créer un imaginaire. Je trouve ça assez féroce et mordant dans la présentation qui en est faite. On a aussi un très beau texte qui s'appelle Turkish Delight, qui est l'avant-dernier, qui tourne autour du soleil, et on découvre 3 nouvelles sur le soleil, donc qui sont toujours tirées d'événements réels. Hein, il observe que le soleil est dans un sommeil profond depuis quelques années, donc a priori pour un certain temps. Enfin, cela a correspondu d'ailleurs à l'époque du roi soleil, exactement au règne de Louis XIV. C'est une époque où le soleil était lui-même dans un sommeil profond, ce qui a provoqué les disettes, les famines et les conséquences politiques qui suivront beaucoup plus tard. Il le met en parallèle avec une panne électrique qui a eu lieu en 1965 aux États-Unis, qui a paralysé toute une ville et qui a été anticipée dans un film qui s'appelle Mirage, où il y a aussi une scène de panique et de blackout parfait. Donc il associe encore au blackout de la guerre. Enfin, ça fait toute une chaîne rhizomique. Alors ça paraît peut-être incongru comme ça quand je le présente, mais il tisse véritablement tout un ensemble de liens qui me paraissent extrêmement stimulants intellectuellement, nous entraînent vers une forme de fascination. Le troisième élément, j'ai quand même terminé quand même sur les 3 éléments, donc le sommeil profond du soleil, cette panne électrique de 1965 et la naissance d'un agneau à visage humain qui a eu lieu en 2010 en Turquie. Voilà, et finalement, on est presque dans une chorégraphie, une composition qui nous entraîne vers l'apocalypse. Enfin, il y a toute une construction autour de trois éléments qui annoncent une forme de destruction du monde, hein, la possibilité que ce monde explose. Et c'est ce qui se produira d'ailleurs dans le dernier texte, Ovoïde, qui s'intéresse à la tour Eiffel et à ses multiples variations, puisque la tour Eiffel existe dans de très nombreuses villes. Elle a été déclinée à l'infini. Il y a un nombre incalculable de villes qui s'appellent Paris, notamment aux États-Unis, et qui, avec un puits de forage, constituent leur propre rêverie autour de la tour Eiffel. Donc là aussi, on est sur le lien qui s'établit entre la France et l'Amérique, lien que beaucoup de Français rechignent à accepter ou avouer, le fait qu'il pourrait y avoir des liens architecturaux entre la France si magnifique, si belle, si fière de ses châteaux, et le monde dénaturé des Américains où tout est une copie d'une fadeur insupportable. Et lui s'amuse justement de ce lien insoupçonné entre la France, capitale de la culture et de la beauté, et la petite ville américaine idiote où on fait des concours du World's Biggest Fish Fry et où on a une tour Eiffel de son niveau, certes, de son ampleur, mais tout cela est assez mordant. Enfin, il y a quelques textes un peu féroces hein, sur la France rance, comme le dit Alessandro Mercuri, un aspect un peu puant, enfin, une mythologie française qui peut relever de l'innommable, dit-il. Voilà, enfin, c'est très riche, hein. Je n'ai abordé que certains aspects de l'ensemble de ces textes. Il parle aussi des Happy Tree Friends, donc c'est une série où on voit plein de petits personnages animés du cartoon qui explosent, et on a eu énormément de plaintes autour de cela, ça perturbait les enfants, etc. Et là aussi, l'entrée que fait Alessandro Mercuri dans le Happy Tree Friends n'est pas du tout une vision moraliste, mais il s'intéresse justement à ce qu'est le toon originellement, tout ce qu'il contient de possibilités explosives et ultra rationnelles, enfin, au-delà du rationnel, dépassant très largement ce qui est possible de faire dans l'humanité. Donc tout ça donne des choses très intéressantes, puisqu'on apprendra que les bombes atomiques qui sont tombées sur le Japon s'appelaient Little Boy et Fat Man, et dit c'est quasiment des noms de personnages de Toons. Et le réel et l'imaginaire, le Happy Tree Friends explosant et ces deux bombes dévastatrices se rejoignent de manière subreptice et assez éloquente. Voilà, donc si ça vous intéresse de plonger dans ces rêveries philosophiques, on pourra lire avec beaucoup d'intérêt Peeping Tom d'Alessandro Mercuri, le deuxième tome, disponible aux éditions Léo Schir.